Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Bienvenue dans On the Verge, le podcast de la sexualité masculine. Dans cet épisode, parfois difficile à écouter, ainsi merci de vous référer aux trigger warnings qui accompagnent les notes de cet épisode, vous allez rencontrer Nicolas, qui a partagé avec émotion sa douloureuse enfance entre violence intrafamiliale, harcèlement scolaire, agression sexuelle et homophobie. Une enfance puis adolescence compliquée et des rapports aux autres complexes, Nicolas navigue comme il peut, sans trouver refuge. Un premier amour violent et toxique, la surconsommation des coups d'un soir via Grindr et quelques courtes relations plus suivies complètent son évolution intime. Toutefois, à 27 ans, Nicolas croit en l'amour et au couple. C'est un échange comme il est rare, brut, triste, douloureux et avec de l'espoir. Merci d'entendre le cri de Nicolas derrière ce sourire. C'était vraiment un échange très intense. Je ne peux que constater que les histoires des hommes que j'interviewe se suivent mais ne se ressemblent pas. Et c'est ce qui fait la beauté, je crois, de ce podcast. Je vous souhaite une très bonne écoute. Pour ce nouvel épisode, j'ai en face de moi Nicolas et ses beaux piercings. J'aime bien donner des petites indications comme ça. Tes lunettes rondes, tes piercings et tes cheveux bouclés. Comment ça va?
Ça va très bien et toi?
Ouais, et tes tatouages, pardon. J'avais oublié dans le pack. Ça va super. Merci d'être là parce que tu es venu à moi et ça c'est trop cool, je te remercie. Nicolas, on a papoté un petit peu avant d'ouvrir les micros. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Tu connais le podcast. Quel est ton tout premier souvenir lié à la sexualité?
Alors, je pense que mon premier souvenir, c'est un souvenir hyper décomplexé. Je pense que c'est moi, enfant, nu, où j'ai eu ma première érection.
Donc, t'arrives à dater ton âge à peu près ?
Je pense que l'âge où je me souviens vraiment, je devais avoir 5 ans. Enfin, vraiment, où j'ai ce souvenir de moi avec une érection nue. Au milieu d'une chambre avec des amis et
okay.
Mon frère, et j'étais là.
Tout est ok.
Voilà.
Oui, après, là, les érections à cet âge-là, c'est plus mécanique et dû à un changement de température ou le plaisir d'être nu, les petits garçons dans le bain parfois.
C'était ça.
Ok. Donc, on ne l'a pas dit, mais tu as 27 ans.
C'est ça.
Comment ça se passait à la maison? Est-ce qu'on parlait de sexualité librement à la maison?
Non, pas du tout. On parlait pas du tout de sexualité. Au contraire, il y avait un peu c'était un peu compliqué de parler même de relations.
Même de sentiments.
De sentiments, ouais. Nous, on est dans une maison vraiment où on est dans les non-dits. On parle pas beaucoup entre nous. Donc moi, j'ai une fratrie, on est trois.
Garçons.
Et mes parents mariés, ils sont tous les deux mariés, ils vivent tous les deux dans la même maison.
Depuis toujours.
Ouais, c'est ça.
Donc du coup, tu as des questions, tu les poses à tes grands frères. Comment ça se passe quand tu commences à te poser ces petites questions?
Je pose pas de questions.
Ok.
On parle pas trop. Moi, je suis le dernier et on parle pas de ce. Je parle pas de ce genre de sujet. Donc moi, je suis homosexuel et donc je viens d'un petit village et c'est vrai que venant d'un petit village. En fait, pour moi, ça n'existait pas.
Il n'y avait pas de référent?
Non, pas du tout. Ou c'était la cage aux folles.
Ouais.
C'était ma marraine qui a, lui, son frère que je n'ai jamais connu, qui est homosexuel, qui, les raccourcis sont « Ah, bah, de toute façon, il doit avoir le sida », ce genre de choses. Donc, moi, enfant...
Tu sais que tu es homosexuel dès que tu es enfant?
Parce
que tu le dis comme si j'étais brun ou...
Oui, 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 je pense que je l'ai toujours su.
Petit garçon.
Ouais, je pense que dès la primaire, je regardais les garçons.
D'accord.
Mais je le disais pas, je l'assumais pas ou autre.
Oui.
Mais je savais que j'étais
au fond de
pas, ouais, j'étais pas attiré par les femmes, les filles.
Ah ouais, dès le départ.
Ouais, je pense. Je pense que je l'ai toujours su. Par exemple, ma mère m'achetait toujours une Barbie et un Action Man. Elle m'achetait toujours les deux.
Ah ouais?
Ouais.
Elle sentait ça chez toi, cette,
ouais.
cette sensibilité?
Oui. Et par exemple, bon, c'est lié à plein de clichés, de stéréotypes. Quand j'étais petit, moi, j'avais des copines. J'avais pas des.
D'accord.
Après, j'étais dans un petit village en primaire, et donc on n'était pas beaucoup. Donc, je traînais un peu avec les garçons, mais j'étais surtout avec les filles. Et c'est vrai que j'ai toujours été assez un peu efféminé quand j'étais enfant et même un peu ado. Mais en primaire, sans qu'il y ait de trop gros problèmes, à part avec les adultes à qui ce choix d'être avec des amies filles. Poser problème.
Aux adultes, tes parents ou d'autres adultes?
Le directeur de mon école.
Ah ouais?
Mon maître, du coup.
Petit comme ça, déjà, il trouvait ça...
Ouais. Il m'a convoqué une fois et il m'a dit « Nicolas, ce n'est pas normal, tu dois être avec les garçons et jouer au foot, tu ne dois pas être avec les filles sous le préau. »
Est-ce que monsieur le maître ne serait pas aussi refoulé?
Je ne sais pas. Je ne sais pas
c'est
du tout.
C'est étrange, mais surtout des enfants, enfin, des petits de cet âge-là, tu vois, ça on a... Enfin... Ils jouent avec des copains, que ce soit des garçons, des filles. Alors même si c'est genré, et dans la cour de récré, ouais. c'est vite genré, mais je veux dire, ils intellectualisent pas autant, tu vois. Donc c'est étrange qu'un adulte se soit permis cet arbitrage.
Oui, c'est ça. Et moi, j'ai ce souvenir de, j'ai pas pu répondre parce que je savais, j'étais en mode, c'est mes copines, je comprends pas le problème. Je suis juste parti en larmes et j'étais voir qui. Mes copines. j'ai ce souvenir de quand j'étais petit. Ça joue avec ma sexualité. Il y a eu tout ce schéma de la première fois qu'on parle d'un homosexuel. Donc là, je devais être en sixième. On m'a dit être homosexuel égale le sida.
Pourtant, t'es pas la génération d'avant, tu vois. Donc j'aurais pensé que... tu étais ado il y a une dizaine d'années, un peu plus, quoi, entre 10 et 15 ans.
Ouais, c'est ça.
Déjà. Ah ouais, ouais. Tu penses que c'est parce que tu étais dans un petit village?
Ouais.
Ok.
Moi, je pense que c'est parce que je viens d'un petit village.
D'accord.
Et
c'est
donc,
un peu reculé.
Ouais.
Sans jugement, mais
bien
c'est un
sûr.
Peu plus. Ok.
Moi, le souvenir que j'ai, c'est le sida par le frère de ma marraine, le fait que traîner avec les filles, c'est pas ok. À la maison, ça n'existait pas. Ou il y avait les insultes. Hein. Par exemple, dans mon village, il y avait un bar, un café, tenu par deux hommes, en couple. Sauf que tout le monde le savait, mais personne ne le disait. Et mon père nommait ce bar, c'est le café des PD. Donc tous ces charmants mots ne m'ont pas forcément...
Et sur, oui, c'est ça. Quelle imagination, en plus, comme appellation.
C'est ça.
Ok. Oui, donc j'imagine, pas forcément évident pour toi de te construire avec ces jalons qui sont quand même difficiles à passer. Comment va commencer, toi, ton apprentissage de la sexualité? Comment tu vas commencer à rentrer dans ta puberté?
Alors, avant la puberté, j'ai eu des relations sexuelles non consenties.
Et tu as souhaité qu'on n'en parle pas trop parce que tu es en plein travail dessus?
Ouais. Et il y a un second sujet j'ai un grand frère, j'ai deux grands frères, et j'en ai un où on a une grosse différence d'âge, et donc ses amis venaient à la maison très régulièrement, et la maison de mes parents, c'était un peu un moulin, tout le monde rentrait, tout le monde partait.
Donc toi t'étais petit garçon, et ces garçons-là étaient adolescents?
Ouais, c'est ça.
Donc toi t'avais 6-7 ans?
Là où j'avais 9 ans, oui. Et eux, ils en avaient 13-14,
oui.
Voilà. Et donc, il y avait plusieurs amis qui venaient, qui partaient, qui restaient toute la nuit, qui dormaient à la maison, qui mangeaient avec nous. Enfin voilà,
la porte ouverte, quoi.
Voilà. Et il n'y avait pas trop de sujets à ça. Et j'ai découvert, là vraiment au tout début, j'étais très jeune, je pense que je devais avoir 7 ans ou 6 ans, 7 ans, je commençais déjà à me masturber. On avait un ordinateur. Et j'ai beaucoup regardé les images de Dragon Ball Z, torse nu. Je me rappelle, j'ai eu à un moment, c'était ça. Et un des amis est rentré dans la chambre, s'est assis sur le clic-clac derrière l'ordinateur. Mmh. Et moi, j'étais là en caleçon et je faisais je jouais à des jeux. Mmh. Et il s'est masturbé.
Waouh, cet adolescent derrière toi.
Et il m'a dit de s'asseoir à côté de lui.
Ah ouais.
Et j'ai exécuté. Et il m'a demandé à ce que je le touche.
Waouh.
Et j'ai exécuté encore une fois et ça a duré pendant en fait 4 ans.
Ah ouais, donc régulièrement ce garçon venait chez toi.
Et il dormait à la maison. En fait, il demandait à mes frères de dormir à la maison.
Et t'en as parlé avec un de tes frères, de ton grand frère, son copain ?
Tu es la première personne à qui j'en
parle. Ah, ça me touche. Et t'as un peu les larmes aux yeux. Donc je vais avoir les larmes aux yeux.
Et j'en ai parlé juste à une amie, mais elle n'a pas compris.
Mais
elle pensait que c'était... que la relation était réciproque.
Comment, à cet âge-là, elle peut être réciproque ?
C'est ça.
Surtout que, même si t'es dans un âge de découverte, ce qui, on en parlait un petit peu avant, ce qui est normal que l'enfant, je veux dire, ce jeune garçon, il est pubère, il est en possession, il a plus de 13 ans, donc il est dans quelque chose de beaucoup plus conscientisé, donc il sait qu'il franchit une limite qu'il ne doit pas franchir avec un enfant.
C'est ça.
Ça dure 4 ans, donc toi, ça va aller jusqu'à ton entrée dans ta puberté ?
Je pense qu'il... Ouais, oui, il l'a accompagné d'une certaine manière. C'était, en fait, par exemple, pour moi, j'ai jamais eu de première fois, pour moi.
Pour toi, parce que t'avais déjà effectivement passé ces étapes avec lui.
Oui.
Est-ce qu'il y a des moments, toi, tu te poses la question si tu dois pas en parler à un adulte ou à un référent ?
Je sais pas. Je me décrirais comme pas très courageux. En fait, dans le sens où j'arrive pas à parler à mes proches ou autres. Je suis pas out auprès de ma famille.
D'accord. Donc ça veut dire que tu n'as pas fait ton coming out, tu n'as pas annoncé à ta famille que tu étais homosexuel.
C'est ça. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on est sur une famille où on est...
On ne parle pas.
On parle pas. Tout le monde le sait. Genre là, j'ai des sous-entendus tout le temps. Mais le dire...
Tu l'as pas verbalisé.
C'est ça. Mais par exemple, la dernière fois, mon père parlait de petit enfant. Et ça veut dire, de toute façon, bah, Nicolas, il adoptera.
Oui, donc c'est évidemment...
Tout le monde le sait.
Et tu ne l'as pas dit.
J'ai jamais dit. Mais parce que, pour moi, l'homosexualité... j'ai de l'homophobie intériorisée, enfin... c'est-à-dire que... Comment ?
Culturellement.
Oui, et donc je n'arrive pas à l'assumer auprès de ma famille parce que pour eux, c'est... Enfin, c'est mal, entre guillemets. Et donc, avec ce garçon-là, ça a duré pas mal d'années. Et après, je sais qu'on a recommencé quand j'étais au lycée.
Toujours lui ?
Toujours lui.
Tu sais que j'ai lu une... Je vais essayer de retrouver cette étude. Mais dans une classe d'enfants, on va dire une classe de 30 enfants, un tiers des enfants a subi de l'inceste ou des attouchements sexuels par un tiers.
Mm-mm.
Et quand je dis un tiers, c'est des gens... c'est pas l'inconnu de dans la rue, quoi.
Oui.
C'est quelqu'un qui est dans le foyer,
le cercle familial et,
voilà,
proche.
Satellite. Un tiers, tu te rends compte, d'une classe, tu prends 30 enfants, t'en as 10 qui ont vécu ça.
Mm-hmm.
C'est... Enfin...
Et
c'est...
donc, moi, j'ai ce souvenir de moi où mes parents m'appelaient pour aller à l'école primaire, en train de scratcher mes chaussures et, en même temps, de coucher avec.
Mmh.
Donc c'est vraiment quand j'étais en études supérieures et qu'on jouait par exemple c'est un nouveau groupe de personnes donc on se connaît pas et on faisait des jeux à boire où on se posait des questions et celui qui a fait il boit et comme ça en fait on apprend un peu à se découvrir.
Mmh.
Et moi quand on me disait vas-y Nicolas raconte ta première fois, moi je préférais boire que raconter parce que j'ai pas envie. Ou je mens.
Le poids du tabou de ce que vous faisiez avec ce... Enfin, ce que... Pardon, je vais reprendre. Tu sentais le poids du tabou de cette adolescence qu'il te faisait subir dans l'agression sexuelle que tu vivais ?
Non. Non, parce que donc on parlait aussi du foyer, etc. Donc moi, mon père battait ma mère. Et par ce biais, nous battait. Car en fait, ma mère venait se réfugier dans nos chambres et par exemple, quand il l'insultait, on était dans la pièce.
Oui, tu vivais des violences verbales et physiques.
Et physiques. Il balançait le ventilateur sur ma mère, donc on le recevait aussi. Mmh. Il conduisait saoul, donc il nous prenait dans la voiture, etc. etc. Et donc, en fait, j'ai toujours connu, j'ai connu jeune la violence conjugale et je pense que je reproduis un peu ce que ma mère. A vécu, c'est-à-dire de la violence au quotidien.
Tu le sens dans tes relations ?
Oui, et en fait, là, donc j'ai vu une psy récemment, et au bout de la deuxième séance, pour introduire la séance, elle m'a dit « ce que vous cherchez dans une relation, c'est la violence. Et vous ne cherchez pas à être heureux, vous cherchez juste à subir de la violence physique, j'y viendrai plus tard, et de la violence psychique. »
Psychologique. Et, ouais, bien sûr, l'emprise, quoi.
C'est ça. Donc, en fait, dans toutes les relations que j'ai pu avoir, il y a toujours eu, en fait... sujet à violence.
Est-ce que tu es dans le schéma comme ça et le cliché, pardon, mais est-ce que du coup tes frères qui sont hétéros, eux, enfin non.
Je pense. Aujourd'hui, ils se disent hétéros.
Mais est-ce que donc eux, ils ont adopté plutôt l'image du père dominant et violent ?
Alors.
Si toi tu.
Alors, il y en a un, oui. Il a eu cette figure et il l'a encore de quelqu'un de très macho, viril, masculin. Alors pour moi, c'est vraiment la personne masculiniste qui pourrait aller dans une forêt pour crier qu'il est un homme.
Je vois tout à fait à quoi tu fais référence. Je suis un homme.
C'est ça. Ah, c'est exactement ça.
Je vois tout à fait.
Et l'autre, il est dans Alors je dirais qu'il est le père qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire un homme dépressif et triste.
Une jolie photo de famille.
Oui.
Je suis désolée d'apprendre que c'est difficile pour tout le monde. Donc du coup, toi, tu t'es rapproché du coup de la maman, enfin de l'image
de ma mère,
de
oui,
l'image de ta mère, pardon. Tu t'es rapproché de l'image de ta mère et donc c'est ça, c'est cette soumission.
Ouais.
Mais tu as quand même intégré la violence
oui.
Et la recherche de la violence.
C'est ça. Donc par exemple. De moi-même aussi, je continuais cette relation avec ce garçon, alors que je savais que j'allais être triste. Et ensuite, dans toutes mes relations, en fait, j'étais toujours attiré parce que je ne devais pas, au point où, j'ai déjà subi de la violence conjugale on m'insultait de tous les noms.
Ton couple.
Dans mon couple, enfin, entre guillemets couple.
Dans ta relation.
Ouais.
Pour revenir aux agressions sexuelles que tu as subies enfant, quand est-ce que ça s'est arrêté ? Je dis agression sexuelle à ta place, hein, parce que
oui.
Ça en est. Hein.
Oui.
Je vois que à chaque fois que je le dis, tu physiquement, mais c'est des agressions sexuelles. C'est important que tu l'entends, Nicolas, tu n'es pas responsable de ce qui s'est passé. Ça, c'est hyper important.
Mm-hmm.
Comment ça s'est arrêté ?
Je suis partie de chez mes parents. J'ai eu mon bac, je suis parti.
Donc.
Études sup,
d'accord.
18 ans.
Et avec ce garçon, tu disais que ça avait continué. Oui, c'est ça, au lycée. Il y a eu une période
enfant,
jeune, prépubère, puis c'est revenu au lycée.
Ouais.
Est-ce que là, c'était une relation qui était plus égalitaire ?
Non.
Toujours pas ?
Il disait ce qu'il voulait, je faisais, je partais.
D'accord. Donc il y avait toujours cette emprise, cette soumission de ta part.
Oui.
Lui, aujourd'hui, est homosexuel ?
Je ne sais pas. Les seules choses que je sais, c'est que bon, je ne sais pas grand-chose de lui.
C'est pas un super gars. Je te le signe.
Sans doute.
Je te le signe.
Non, ça c'est... Je suis parti études sup, je suis parti de chez mes parents, j'ai pris un appart, okay. Je suis parti en ville.
Là, t'as coupé.
Et ouais. Okay. Il m'avait relancé une fois par message, mais on ne s'est jamais revu.
En parallèle de cette relation lycéenne toxique, est-ce que tu as eu des petits amis ? Au lycée ? Est-ce que tu t'es autorisé ?
Non. Alors, je dirais au collège, en troisième, je suis... En fait, j'ai connu un homosexuel, donc je devais être avec lui.
Ah oui, comme un ami homosexuel, vous allez trop bien
c'est
ensemble.
C'est ça. Et là, c'était, il y a un homosexuel dans la ville à côté de chez moi, c'est forcément lui. Mais je suis sorti avec des filles aussi au collège.
Okay.
Je suis quand même sorti avec des filles parce que je me le devais de l'être.
Socialement ?
Ouais, c'est ça.
Okay.
Et en fait, il y avait une fille où on sortait tout le temps un mois ensemble au collège, on arrêtait et l'année d'après, on continuait.
Peut-être qu'elle était lesbienne.
Non, aujourd'hui, elle est fiancée, elle a un enfant et je pense qu'elle est heureuse. Je lui parle pas, mais je ne sais pas.
On lui souhaite en tout cas. D'accord, donc du coup, tu avais ce rendez-vous avec cette jeune fille.
On avait un groupe d'amis, c'était deux couples hétéros, enfin hétéros, dont le mien, deux couples.
Ouais.
Mais j'étais pas amoureux.
Vous rouliez des pelles ?
On s'embrassait au collège, on a fait à Saint-Valentin ensemble, on la faisait à quatre.
Mais est-ce que
elle dormait chez moi.
Mais justement, t'allais un peu explorer la sexualité avec elle ?
Avec elle, non.
Ça t'a pas...
Non, pas avec elle. Ensuite, au lycée, je suis sorti avec d'autres filles, avec deux. Une où il n'y a eu que des bisous, etc. Une où on s'embrassait, on s'est caressé, enfin voilà, on s'est caressé, mais on n'a pas été plus loin que des caresses.
Tu t'es dit que c'était peut-être cool d'être hétéro ou ça restait pour toi
Je me suis dit que c'était plus facile.
J'imagine.
Et par exemple, j'ai eu la discussion, là j'étais en date avec un gars, et on discutait avec la famille, comment ça se passait, avec son cercle d'amis. Mm-hmm. Et j'ai dit, mais moi, si je pouvais tout refaire et être hétéro, je ferais tout pour le faire. Et là, il m'a regardé vraiment de la déception. Il m'a dit, mais jamais de la vie, je changerai. Et je lui ai dit, mais moi, bien sûr que si, tout. Wow. Tout est plus facile. Il m'a dit, mais moi, ça fait vraiment partie de mon identité. Aujourd'hui, si je suis hétéro, je suis vraiment une autre personne. Et moi, je lui dis, mais oui. Et moi, ça me va.
Être une autre personne ?
Être une autre personne et avoir plus de facilité socialement, en tout cas.
Ouais, mais c'est comme te dire que ça aurait été plus facile, je vais faire des clichés, mais d'être américain ou tu enfin en fait c'est changer qui tu es.
Oui, ah totalement.
Tu vois, c'est pas un choix. Mm-hmm. Donc oui, effectivement, ou vivre dans une famille où il y a je sais pas, c'est plus facile d'être le fils de Bernard Arnault. Ah bah oui, ça change ta life. Je peux te dire. C'est sûr, mais c'est changer complètement qui on est. Donc ton date avait raison, mais je comprends aussi le raccourci intellectuel parce que effectivement ce que tu décris est quand même un parcours douloureux.
Mm-hmm. C'est ça.
Donc tu explores un petit peu avec cette jeune femme. Bon, c'est pas...
Non, il y a rien eu.
Il y a pas une révélation quoi.
Non, au contraire, j'étais hyper triste. Et à un moment, elle dormait chez mes parents, il y avait des amis avec nous, et je lui avais passé ma gourmette avant, et là, elle a compris. Elle m'a rendu ma gourmette, elle a dit, j'ai appelé ma mère, elle va venir me chercher, et on a arrêté.
Elle a compris que c'était...
Oui, et moi, j'ai ressenti du soulagement.
Ouais.
Parce que bah, là, je pouvais pas être moi-même, parce que je n'ai jamais dit verbalement que j'étais homo, ou je me permettais pas d'être avec des hommes. Mais
elle avait compris.
Elle avait compris. Et moi, je me disais que j'avais plus à faire semblant.
Ok.
Je suis tombé amoureux de garçons quand j'étais au lycée, quand même. J'étais très triste. En fait, je tombais amoureux que d'hommes hétéros. Il y avait des homos dans mon lycée. Mmh. En fait, j'ai fait un lycée avec une école d'art. Évidemment.
Évidemment.
Et donc, mais dans un lycée pro, c'est-à-dire qu'en fait, on était les seuls. C'est-à-dire qu'on était la seule classe avec des femmes, des filles et les gays. Ouais. Et donc...
Mais t'as un peu échangé justement sur ton homosexualité avec eux ?
Ah, au lycée, j'étais totalement out auprès de mes...
D'accord, mais non, mais est-ce que t'as échangé avec ces garçons homosexuels ?
Pas du tout, non. Alors, bah, et j'arrivais pas à les apprécier.
Okay. Mais après, c'est pas parce que tu partages la même orientation. On se saurait que si tous les hétéros s'entendaient bien, le monde serait pas comme ça.
On se parlait pas du tout.
D'accord, ça fitait pas quoi.
Ouais, non, mais c'était même pas genre, oh non, des gays, j'ai pas envie de leur parler. Non, c'est juste pas d'affinité personne, particulière. Quoi. Genre, moi, au lycée, j'allais à des concerts de métal et on allait dans le bar pour boire des pintes. Et on n'était pas dans le même dans le même truc.
Et c'est ok.
La vie.
Oui, oui. Non, mais c'est ça. Il faut arrêter de croire que tous les gays vont bien s'entendre ensemble.
Non.
Ok, donc tu tombes amoureux de ces garçons. Bon, bah du coup, ça ne se réalise pas. Il ne se passe rien.
Ouais, c'est ça. Il y en a eu un surtout où j'étais très amoureux de lui. Et c'est là où j'ai commencé à faire des très grosses crises d'angoisse. Donc là, j'étais avec des amis et ils commençaient à m'en parler. Il y en a un qui m'a dit, mais tu sais qu'il n'y aura rien. Et là...
Ouais, ça t'a...
Et là, j'ai fait une crise d'angoisse. Parce que c'est vrai, en fait, je suis totalement dans ma tête, en mode ouais, on va être ensemble. Une fois, il m'a invité chez lui, on a fumé une chicha. C'est bon, on est ensemble, une chicha.
C'est trop mignon.
Passion. Mais non, juste en fait, il pensait que j'étais son pote, et voilà, point.
Et en fait, c'est au moment où ton pote te l'a verbalisé que t'as vraiment.
Crise d'angoisse. Ouais.
C'est fou le pouvoir des mots, c'est chez toi. Hein.
Ouais.
Parce que tu le savais au fond de toi, mais là, il y a eu quelqu'un qui te l'a.
Qui me l'a dit.
Qui te l'a dit.
Ouais, c'est ça.
C'est intéressant.
Et...
Ouais, ouais, je comprends. Donc, du coup, gros chagrin d'amour, tout seul ?
Non, parce qu'à un moment, c'était au moment où sur Facebook, on voyait sur le côté les commentaires que tout le monde publiait.
C'est vrai.
Donc, tu voyais vraiment tout ce que tes amis publiaient à l'instant T. Et à un moment, j'ai écrit « Triste de voir ses photos chaque matin » et j'avais liké sa photo le matin même.
Okay.
J'avais totalement fait exprès.
Bien sûr.
Et donc là, il m'a envoyé un message. Il m'a dit, va te faire foutre.
Oh non, j'ai cru qu'il allait mettre un message gentil.
Et là,
crise
d'angoisse,
bah ouais.
J'ai pleuré.
Bah évidemment.
Ma pote m'a dit, mais en même temps, tu l'as cherché. Désolé.
Est-ce que les gens peuvent être un peu gentils dans ton entourage ou comment ça se passe?
Il y en a.
Le va te faire foutre, c'est un nom. C'est un nom. Pitié, oui. Éduquez vos enfants, si vous êtes encore en possession de le faire, pour que quand il y a un chagrin d'amour, tu accompagnes l'autre avec bienveillance, quoi.
C'est ça.
Pas de te faire foutre, c'est violent. Hein.
C'est, ouais, vraiment. Et c'était vraiment le SMS du matin avant d'aller en cours. Et vraiment, ouais, c'était.
Donc j'imagine après plus de son, plus d'image.
Je me rappelle, du coup, lui était pas dans. Il était deux classes au-dessus de nous. Et j'étais juste. À un moment, il est rentré dans notre classe. Et là, il est parti. J'ai fait une crise d'angoisse et j'ai dû sortir de classe et aller en perme. Parce
beaucoup
que j'allais
de crise
pas.
D'angoisse.
Ah, j'ai une période où je faisais que ça j'arrivais plus en fait à gérer mes émotions et donc il fallait extérioriser d'une manière. C'était
bien
celle-ci.
Sûr, bien sûr. Est-ce que tu peux dis-moi.
Alors, il faut que je retourne un peu en avant. Mmh. En troisième, j'étais sur un site de rencontre.
Cito.
Badou.
C'était le début.
C'était le début de Badou. Et les personnes homosexuelles pouvaient être inscrites dessus.
Mmh.
Un ami de mon frère m'y a vu. Et donc l'a dit à ma mère.
Oh.
Et ma mère m'a posé la question dans la voiture. Nicolas.
Ouais.
Alors je vais utiliser le ton qu'elle a employé. Nicolas, on t'a vu sur un site de rencontre. C'est vrai ou pas? Est-ce que t'es gay?
Waouh.
J'ai forcément été dans le déni. Je dis, bah, bien sûr que non.
Ça va pas ou quoi?
Genre, c'est bon, non. Et on en a jamais reparlé.
Waouh. Pas évident le dialogue.
En fait, là, j'ai senti que contrairement à ce qu'on peut lire, genre parfois où les personnes sont en mode ma famille bienveillante et j'ose en parler parce que je sens que la question était bien posée, était bien amenée.
Non, là,
et font ça
bien
pour
sûr,
moi.
Bien sûr.
Là, j'ai pas senti de bienveillance.
Non, mais le on t'a vu déjà, bon, voilà. Et effectivement, oui, c'est pas. On sent que la discussion n'est pas vraiment possible et appréciée.
C'est ça. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti à ce moment-là. Peut-être que ma mère pensait tout autrement la chose, mais je l'ai interprétée de cette manière-là.
Aujourd'hui, t'es à un âge et une posture où tu peux tout à fait poser ces questions-là et avoir un rapport d'adulte à adulte à tes parents et aller sur ces terrains-là, tu vois. T'as tout à fait le droit de le faire.
Mm-mm.
Et s'ils sont choqués, déçus, en colère, en fait, ça leur appartient.
Mm-mm.
Ça ne t'appartient absolument pas. Tu vois?
Ouais.
Et c'est important. Enfin, après, je te dis ça, c'est facile à ma place.
Oui, comme beaucoup de choses.
Exactement, je suis... c'est facile. Mais c'est important de se rappeler qu'on ne doit rien à ses parents. Très important de se le rappeler. Et que notre construction, évidemment, dépend d'eux. Mais après, c'est ce qu'on en fait aussi.
Mm.
Donc, effectivement, les schémas et l'éducation... évidemment, il y a des choses positives. Hein, et je ne suis pas là pour juger l'éducation de tes parents que je ne connais pas. Mais en tout cas, de ce que tu décris, il y a beaucoup de violence. Il y a beaucoup de non-dits. Il y a une forme de... Je veux dire, une mère qui n'a pas vu tout ça. Soit... elle était débordée, soit elle n'a pas voulu voir, tu acquiesces, tu fermes les yeux et tu acquiesces.
On est sur cette option.
Voilà, soit elle-même était en dépression, possible, tu peux cocher toutes les cases.
Oui.
Je veux dire, c'est pas... Mais tu vois ce que je veux dire, c'est une mère qui ne voit pas ça chez son enfant, il y a un manque. Donc à partir de ce postulat, tu as aussi le droit, tu vois, de le verbaliser, de le dire, évidemment tu es au début du chemin. Et tu prendras le temps qu'il faudra. Mmh. Mais rappelle-toi qu'effectivement, tu ne dois rien à tes parents. Donc ça, c'est de base. Et après, voilà, tu en feras ce que tu veux. Donc, tu passes le lycée.
Ouais.
Tu arrives plus ou moins à tenir. Parce que tu me dis que tes potes, t'es outé et tout. Donc, t'as quand même, socialement, tu arrives quand même à avoir ta bande de potes,
ouais.
À avoir quelques moments quand même sympas de lycéen. Tu pars de la maison. Tu coupes tout.
Alors, pendant le lycée... Alors, j'ai été out, on m'a forcé à l'être. J'étais, en fait, un gars avec qui j'étais au collège était dans la même classe que moi, et il m'a obligé à le dire, sinon je ne pouvais pas sortir de la classe.
Oh, super.
Et il m'a forcé à...
Du coup, le harcèlement scolaire.
Au collège, hein, ça, j'en passe, mais au collège, je me faisais insulter de tous les noms, tous les jours, tout le temps. Dans les bus, on m'a frappé.
Wow.
On m'a pris en vidéo sur Snap parce que j'étais une créature. On m'a... Des profs et la CPE ne m'ont pas aidé. Donc j'ai été parti les voir pour justement faire parler de discrimination scolaire. Et la seule chose qu'ils m'ont répondu, c'est « Ben Nicolas, il serait temps de voir qui est le problème. »
Putain, entre ton maître à l'école et eux, sympa le cadre enseignant.
C'est ça.
Il n'y a pas que ça, il y a des gens bien, mais c'est vrai que... Bon.
Il y en a. Ouais. Mais il y a beaucoup de personnes qui peuvent aussi nous soutenir. Ouais. J'en ai pas... Malheureusement, moi, dans mon cadre d'enseignant, j'en ai jamais eu.
Dans tes rencontres, ouais.
Ouais. Mais donc, voilà. Et au lycée, bien évidemment, aussi, on m'insultait de tous les noms. Mais là, j'avais mon groupe d'amis qui me soutenaient.
Donc, t'as quand même pu aussi avoir des moments un peu de... Comme un jeune lycéen, quoi, avec ton cadre de tes potes.
C'est ça. Ouais.
Ok, donc tu disais après que tu pars de la maison.
Alors, il y a eu une période. Alors, donc, c'est la transition entre le lycée... Alors non, j'étais en terminale. Entre la première et la terminale, j'ai rencontré mon premier amour.
Ah, ça nous fait tous plaisir. Les auditeurs et les auditrices. On est tous contents que tu rencontres ton premier amour.
Oui,
mais. Non.
Je suis désolé.
Aïe, 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 aïe.
En gros, une amie m'a invité à une soirée où elle était conviée. On y va, on passe la soirée et là, on a vu le mec.
Le pote de pote de pote.
On ne connaissait pas.
D'accord.
Donc, en fait, ma pote, elle connaissait des gens et après, il y avait d'autres gens.
Des gens qui connaissaient.
Ouais, oui, donc il y avait plein de gens.
C'est des meilleures soirées, ça, souvent. Hein.
C'était cool. Ouais. Dans un champ, paumé, il n'y avait pas de lumière. C'était trop, trop bien. Et nous, on était deux jeunes lycéens, et après, c'était que des adultes.
Des étudiants.
Après, ouais, des gens de 18, enfin,
oui,
ils étaient majeurs, quoi.
Oui, jeunes étudiants. Jeunes majeurs.
Voilà.
Pas forcément étudiants, pardon pour le raccourci.
Et donc, ma pote, on y va, et là, on a vu, comme on l'a appelé pendant plusieurs mois, la perfection. C'est-à-dire que pour nous, la perfection, c'était un gars avec des écarteurs, il avait des tatouages, il avait les cheveux, genre, je crois, décolorés, ou il avait une crête. Enfin, nous, on était en mode, waouh, trop beau le mec.
Les écarteurs, c'est ce que tu portes là, c'est-à-dire c'est dans les lobes d'oreilles des choses qui écartent le lobe.
C'est ça, c'est ça.
Au fur et à mesure. Okay.
C'est ça.
Est-ce que ça fait mal ?
Pas trop.
D'accord.
Ça va. Et donc, ce mec, on le voit, et moi, il me parle en me disant « Mais t'étais pas à ce festival-là » Et je fais « Bah si, mais je t'ai vu, j'étais au camping et tout. » Et en fait, il était totalement bourré. Et moi, j'étais en mode « Oui. » Enfin, on avait 16 ans. Moi, j'étais en mode « Oui, bonjour. » Donc, la voix toute tremblante. Et après, bah, avec ma pote, on s'assoit, on boit une bière, on discute vite fait avec les gens, et après, on rentre. Je l'ai trouvé sur Facebook. Parce que oui, c'était Facebook à l'époque.
Bien sûr, personne te juge.
et donc, je commence à lui parler, etc. Et en fait, on se parle tous les jours. Et en fait, il me dit qu'il sortait avec une fille que je connaissais, qui était de mon village. Mmh. Et voilà, donc ça amène la discussion, etc., etc. Et en fait, on se revoit avec mon autre amie, c'est elle qui m'avait invité de base. Et donc, en fait, à force, eux deux sortent ensemble. Mais moi, j'étais déjà amoureux.
Ah non.
Mais je ne dis rien, parce que je suis le bon pote.
Ah bah oui, et ta pote, elle savait que...
Elle s'en doutait, mais je sais pas si elle savait vraiment... J'avais jamais verbalisé avec elle que j'étais attiré par ce mec. Mais c'est moi qui avais fait en sorte qu'ils sortent ensemble, enfin j'avais tout fait pour qu'ils soient heureux.
Ah, le
singulier. Et donc ça a duré quelques temps, elle a été hyper triste, parce qu'elle se sentait pas bien dans sa peau. Donc là c'était juste elle et elle-même, elle se sentait pas bien. Il l'a pas aidé, ils se sont quittés et j'ai totalement saisi l'opportunité. Et moi, tous les matins, il m'envoyait mon bon courage pour ta journée.
Oui, donc il était un peu quand même sur les deux tableaux parce que.
Ouais, alors par rapport à sa sexualité, il se définissait comme bi le jeudi, le mardi, il était hétéro, le dimanche était je ne sais pas.
D'accord. C'est quelqu'un de changeant, quoi.
Voilà, très fluide.
Très fluide.
D'un jour à un autre.
Fallait tomber sur le bonjour.
C'est ça. Et dès qu'il y avait le bonjour, je l'ai pris. Et donc en fait au bout d'un moment en fait on était tous les jours à deux, il venait me chercher au lycée.
Oui, vous instaurez quand même un quotidien, un
une
truc.
Routine, ouais, ouais. On se voyait tout le temps, on allait tout le temps au même bar, il nous connaissait, nos groupes d'amis nous connaissaient, enfin moi j'avais vu tous ses amis, il connaissait les miens, mais on n'était pas un couple.
Il n'y avait pas encore d'échange
Alors là, pour le moment, il n'y a jamais eu d'échange intime, verbal, physique. Là, c'était juste, on passe du temps ensemble.
Et avec ton recul aujourd'hui d'adulte, il y avait de la séduction à ce moment-là? Ou c'était vraiment de la franche camaraderie?
Je sais pas.
T'arrives pas
à... Par message, je pense qu'il y avait séduction.
Une fois ensemble, c'était vraiment des potes, quoi.
C'est ça.
Okay.
Mais moi, j'étais totalement amoureux et je ne voyais que par lui.
La perfection, n'oublions pas.
Ah, totalement. en plus, je rencontre ses amis, je m'entends bien avec eux.
Ouais.
Mais lui, quand il rencontrait les miens et qu'il voyait une belle fille, il était en mode « Ah, elle est trop belle et tout. » Et moi, je suis en mode « Non, mais en fait, elle est prise, laisse-la. » et en fait, on a commencé à rentrer dans une relation pas ouf. Ça a duré plusieurs mois et en fait à un moment il était sur une fille et à un moment on se pose dans un bar, alors bar de village, franchement je viens d'une petite ville, il y a deux bars point, dont le bar cool et le bar genre il est fermé, il faut aller à l'autre,
c'est ça, ok,
voilà. Donc petite ville dit aussi en fait on se connaît tous,
ouais.
Et il y a une fille, à un moment on s'est posé et elle nous a dit: Nicolas, ça se voit que il était à côté de nous, que ça se voit que tu l'aimes bien.
Ah ouais.
Elle se retourne vers l'autre.
Sentimentalement, quoi.
Ouais. Elle se retourne vers l'autre, elle dit:
Et toi?
Et toi? Ça se voit que tu aimes bien Nicolas.
Et donc là, en fait.
Et là, moi, j'ai souri, genre, et je suis parti, oh mon Dieu. Et il a pas répondu, il a ri, genre le petit rire nerveux.
Oui, bah bien sûr. Bah après, c'est même quels que soient ses sentiments, c'est un peu gênant. Enfin, tu vois.
C'est très brutal. Enfin, de nous dire ça en face, et même lui, genre, il est pas à l'aise avec sa sexualité, ou aussi peut-être que juste il était pas attiré par les hommes. Enfin.
Oui, peu importe.
Je ne peux pas lui lancer la pierre à ce sujet, en tout cas. Et donc, on est rentré dans ce genre de schéma, et après, et donc moi, je consomme aucune drogue. Je bois pas avec enfin je bois pas de manière excessive et donc et en fait on était parti en soirée par contre là avec des jeunes étudiants.
Mm-hmm.
Et eux par contre consommaient beaucoup de drogue, d'alcool, etc.
Le cliché, non, c'est vrai.
Là c'était l'appartement, on sait quand on y va on prend des trucs.
D'accord.
Sauf que moi j'y allais de manière totalement naïve, en mode on va faire la soirée, wouh, non. On est là pour se poser dans des canapés et un lit, à prendre un truc qui vient et à parler et à faire des histoires parce qu'après tout le monde est hystérique en fait. Et c'était horrible.
Il n'y a pas de musique, non.
Il y a de la musique, mais en fait les gens pensent juste à se défoncer
ah
et
ouais
à faire des histoires. C'était très hyper bizarre.
C'est un peu creepy là, hein, ouais, ce genre de soirée.
Ouais. Et lui, il y avait une autre meuf. Et ils se plaisaient mutuellement, et en face de moi, il a commencé à l'embrasser, etc., etc.
Ah, ton petit cœur, il s'est...
Oh, bah, du coup, moi, j'avais pas de voiture, donc je suis parti dans sa voiture et j'ai pleuré. Et à un moment, cette meuf, elle vient me revoir, elle me parle de lui, et moi, j'étais en mode, mais en fait, j'ai pas envie de savoir,
bah, non,
laisse-moi. Et lui m'a dit par mes... Enfin, après, m'a dit, vas-y, on rentre. Donc, on est rentré parce que je commençais à lui faire des histoires. Et donc, moi, j'avais aussi... je le faisais beaucoup culpabiliser. Enfin, j'étais pas blanc comme neige. Je le faisais culpabiliser dès qu'il se passait un truc. J'étais jaloux, je lui disais et j'étais pas d'accord. J'étais en mode, non, mais là, tu te rends compte.
Mais du coup, il y avait une ambiguïté super chelou.
Oui. Ouais, on était... C'est pour ça, après, lui était très méchant avec moi. C'est-à-dire que quand il était saoul, il a un gros problème d'addiction. Il avait... un gros problème d'addiction à l'alcool et un peu à la drogue, et en fait dès qu'il était
trop saoul
il m'insultait de tous les noms,
comme ton père, quoi,
comme mon père aurait pu faire avec ma mère.
Ouais.
Et vraiment tout.
Waouh, hyper violent.
Ouais. Et
cette haine, c'était sûrement aussi contre lui.
Oui. Ouais, et avec sa famille ça n'allait pas bien, enfin plein de raisons qui font
le gars était énervé, quoi.
J'étais son coaching ball.
Ouais.
C'est ça. Et par exemple, une fois, on devait dormir chez une de ses amies et on a, il est, enfin moi, il était totalement saoul. En fait, je la supporte plus. Je pars chez sa pote et je suis retourné 20 minutes après et en fait, tous nos amis l'ont laissé en plan devant le bar.
Oh.
Et là, je dis allez, on rentre. Et donc, je l'ai
ramené. Oui, donc t'es un peu comme un peu ça. Son compagnon qui vient le chercher, qui vient. Donc, ouais, il y avait quand même une relation amicale qui était très ambiguë, quoi.
C'est ça. Que tout le monde voyait, que tout le monde savait, lui, ouais. Moi, tout le monde. Et. Mais à un moment. Et donc, voilà, ça, c'est arrivé plusieurs fois à ce qu'il m'insulte, etc. Et un de ses amis, son meilleur ami, une fois, lui a clairement dit: est-ce que tu te rends compte de ce qui se passe entre vous? Et en gros, il a crevé l'abcès. Et là, il m'envoie un message pour me dire: Nicolas, je sais que tu es amoureux de moi.
Ah ouais, et donc ?
J'ai démenti, j'ai dit que c'était pas vrai, blablabla, bla bla, et j'ai arrêté de répondre et j'ai pleuré.
Oh non.
Voilà. Et après, on en a clairement parlé.
Ah.
En fait, il y a eu un soir où il a été trop loin dans les insultes et je lui ai dit: on va arrêter de se voir parce qu'en fait, là, c'est trop. Et il est venu me chercher. En fait, je lui devais de l'argent, donc il est venu chez moi. Je lui avais dit: je te rends tes 5 balles, viens et tu t'en vas. Je lui ai rendu. Il m'a dit: viens dans la voiture. On est parti, on a été sur un poton à côté d'un étang et on a commencé à parler et il s'est mis à pleurer dans mes bras et il m'a clairement dit: je sais pas ce que je veux, je ressens des choses, mais je suis paumé.
Ouais, pas clair, il arrivait pas à être clair avec ça comme toi tu l'étais.
Ouais, et donc là je l'ai pris dans mes bras et j'étais en mode allez on tente de continuer à parler de manière amicale, guillemets, énorme guillemets. On continue à se voir, parfois je lui prenais la main. Et lui, quand c'était comme ça, genre, il courait pour que, en fait, on arrête de se prendre la main.
Tu sais, t'as regardé Sex Education, la série ?
Oui.
Ça me fait tellement penser à l'histoire entre Adam et Eric.
Oui.
Tu sais, Adam qui est dans cette virilité, ce père violent, alors physique non, mais tu vois, un père qui a une espèce d'autorité, un truc et tout ça. Et lui qui n'arrive pas du tout à vivre son sentiment. Et donc, du coup, il tape tout le temps Eric.
C'est ça.
Et il est père méchant avec lui et il insulte et tout. Ce garçon a essayé de réfréner un truc qu'il vit, qu'il ressent, mais qu'il n'arrivera pas à exprimer avec toi.
C'est ça. Et donc, on a eu une période comme ça où on... Très ambigu.
Ouais, platonique.
Où il n'y a rien eu. Là, je suis parti faire mes études.
Enfin, tu mets tout derrière toi.
Et donc, voilà. Et donc là, j'ai mon appartement à moi. Donc, on n'est plus qu'à deux. Et en fait, une fois, donc il devait passer le week-end chez moi. Ah oui, il y avait une soirée étudiante et je voulais qu'il soit là. Lui, à ce moment-là, il était étudiant également avec son meilleur ami. Sauf qu'en fait, son meilleur ami aussi avait un petit problème d'alcool. Et je l'ai récupéré à 10h du mat, totalement saoul. Et en fait, il s'était mis une mine. Et là, je le récupère. Et là, on commence à prendre la voiture et on avait genre 1h30 de route. On va jusqu'à mon appart. Et en fait, là, dans la voiture, il me dit: tu sais, Nicolas... c'est pas que je suis pas gay, c'est pas que je suis pas bi, c'est que moi, les relations sexuelles, en gros, résumé, je veux pas être sodomisé. Et là, je lui dis: tu sais, je peux l'être.
Jean-Michel.
Enfin, par exemple, moi, je peux l'être. Et il m'a fait: ah ouais ? En fait, il pensait que moi, j'étais actif.
D'accord.
Et que donc lui, par conséquent, devait être passif.
Ah oui,
et en fait, il avait interprété ça, je crois, tout le long. Et je lui ai dit, tu sais, ou que tout le monde, ou il fallait être tout le temps versatile, donc faire les deux. Et j'étais en mode, non, tu sais que dans une relation homosexuelle, il peut avoir un seul actif et un seul passif, et point, c'est tout.
Enfin, et puis surtout, la sodomie ne définit pas ta sexualité, mon gars. Donc,
Oui, déjà. Et donc, et là, on en parle avant d'arriver chez moi dans la voiture.
Tu penses que c'était son blocage initial ?
Non.
Non, d'accord.
C'était...
Ok. Un déblocage.
Un déblocage, d'accord. Je pense. Et donc, là, je lui dis, voilà, on en parle. Et il me dit, ah, ok. Mais il était saoul. Du coup, il était en mode, ah ouais, ok, super. Ok, marrant. Et après, on va chez moi, on se pose, on fait notre petite vie, on met un film. Et là, je le prends dans mes bras, etc. Et il commence à venir vers moi, je commence à venir vers lui. Et là, le premier baiser.
Ça y est, enfin.
C'est ça. Parce qu'avant, il y avait eu d'autres bisous. Mais genre, les bisous de potes. Je les compte pas, parce que c'était d'accord. Vraiment... Il n'y avait pas d'émotion.
Là, il y a eu un vrai baiser.
Là c'était vraiment
d'accord.
Un vrai baiser.
Donc là, ça y est.
Ça y est, on s'est embrassés. On s'arrête là. Et bien sûr, lui m'a fait des suçons. Entre-temps, je fréquentais une fille pendant cette période-là,
okay.
Où on avait couché ensemble.
Donc, tu avais eu ta première fois avec une fille.
J'ai eu ma première fois avec une fille en études sup.
Ok.
Et donc, mais ça, j'en parle pas plus que ça parce qu'au final, c'était juste du sexe. Enfin, il y avait pas d'émotion, il y avait pas de sentiment des deux côtés.
T'avais envie d'essayer du sexe avec une femme ?
Ouais.
Ouais. Okay.
Et ça me dérangerait pas de refaire aujourd'hui.
Ok.
Ensuite, en fait, on va faire des courses tous ensemble parce qu'il y avait une soirée étudiante, donc on devait aller chercher de l'alcool, des chips, blablabla. Et là, moi, j'avais un énorme suçon dans tout le cou. Et là, elle fait ah ouais, ok. Et en fait, elle m'a fait la gueule.
Bah oui.
Totalement compréhensible.
Tout à fait logique.
Et donc, il y avait lui à côté de moi qui était bourré. Enfin.
C'est un peu son. Il est un peu souvent sous ce jeune homme.
À cette période-là, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et ensuite, donc là, l'après-midi passe. Ensuite, on fait la soirée. On rentre à l'appart. Et là, on se recale chez moi et on se réembrasse. Et il y a eu acte sexuel. Et donc là, on a couché ensemble.
Donc là, t'as ton rapport consenti.
C'est ça.
Avec un garçon que tu désires.
C'est ça.
Que tu aimes.
C'est ça. C'est la première fois que j'ai fait l'amour. Quand j'ai eu ma période étudiante, je me considérais pas en couple, donc j'étais sur les applis de rencontre.
D'accord.
Et en fait, j'ai eu d'autres plans avec des autres mecs.
Ah, d'accord. T'avais déjà pratiqué plusieurs relations homo avec d'autres garçons.
Ouais, ouais, plusieurs. Et mais c'était, j'avais jamais fait l'amour.
Enfin, là, t'as fait l'amour.
Là, c'est pas la même chose.
Ouais.
Mais par exemple, pour pas brusquer ce mec, j'avais pas retiré mon caleçon.
Pour pas.
En fait, je n'ai pas montré mon pénis.
Pour que ce soit pas trop.
Violent, guillemets, pour
c'est
lui.
C'est mignon d'avoir essayé de faire attention à ce que ça le brusque pas. C'est ça. Et, que ça
et, à chaque fois, je lui demandais, je lui fais, est-ce que je peux retirer ton caleçon? Est-ce que je peux faire ci? Est-ce que je peux faire ça? Tout en sachant que moi, j'étais pas trop expert à cette époque-là.
Oui.
Donc, pareil, moi, j'étais un peu maladroit sur certaines choses.
Ouais, mais t'as pris quand même le lead là-dessus, quoi.
Ouais. Okay. Et donc,
et une fois que ça s'est fait,
il n'y a pas eu de gêne. Donc, après, il revenait dans la ville où je faisais mes études. On recontinuait, voilà.
Et vous étiez ensemble ?
Non.
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 Et lui, il avait des sentiments pour toi ?
Je pense que oui. Et j'en ai parlé avec son meilleur ami, avec qui je parle encore aujourd'hui. Pour lui, oui, aussi.
Il t'a aimé ?
Je pense. Okay. Il ne me l'a jamais dit.
Ça te fait du bien de savoir qu'il t'a aimé ?
Je le sais pas. Je le pense.
Comme une histoire de mots qui n'est pas dit.
Oui, oui, oui.
Okay.
Et donc après, je me rappelle aussi une autre fois, et là c'était incroyable. Mais c'est moi qui ai dit stop. Il était totalement saoul. Oui.
Encore.
Et donc là, il avait pris la voiture de son père. Moi, j'avais la voiture de ma mère. On était dans un village paumé. Là, par contre, c'est vraiment genre autour de la forêt.
Mm-hmm.
Son meilleur ami a dit vas-y dégage, hein, parce qu'en fait il était totalement saoul, il était insupportable, et moi forcément je reste avec, et j'étais rarement saoul avec parce que je me le permettais pas.
Ah bah oui, parce que vous pouvez pas être tous les deux une viande saoule, pas possible quoi.
C'est ça, et je me permettais pas d'être saoul avec. Pas et cool. Là j'étais un peu genre pompette, et on commence à coucher ensemble dans la voiture, et là il m'a dit c'est moi qui va te faire plaisir cette fois-ci. Et il a commencé à me faire une fellation.
Ok.
Et c'est la première
chose qu'il avait jamais pratiquée sur toi.
Non, jamais. Je pense tout court. Et et après il a dit vas-y, je veux aller plus loin, j'ai pas de capote. Et là j'ai dit non.
Ouais.
Là j'ai dit je suis désolé mais capote. Et il m'a dit j'en ai, mais chez mon père, on était tous les deux saouls. Hein, j'ai dû réfléchir et j'ai dit non et on n'a rien fait.
Ok, donc la relation, elle va durer combien de temps comme ça en...
Un an et demi.
Ah, quand même.
Enfin, du début
ouais.
À la fin, ça dure un an et demi.
Comment ça s'arrête ?
Ça s'arrête de manière très violente. Désolé. On a été en festival techno, donc beaucoup de drogue, etc.
D'accord.
Et moi, même là, rien, zéro. Et j'étais hyper saoul.
Pourquoi tu prends pas de drogue ? C'est une question.
Mes deux frères prennent de la drogue, ça a beaucoup blessé ma mère. Elle a été extrêmement triste sur ce sujet.
Par contre, l'alcool, c'est OK. D'accord.
Je connais ma limite. Je me suis déjà mis des grosses mines.
Je parlais pour ta mère, l'alcool, c'est OK.
Ma mère...
Non, c'est marrant comme quoi Tu vois, ça peut détruire une mère qu'un enfant se drogue, alors que s'il picole, comme c'est pas interdit par l'État, il y a un truc de bon.
Oui.
C'est fou.
On est
même.
Dans le schéma là.
Comme la clope, les gens qui fument.
C'est ça, oui, on est là-dedans.
Deux paquets de clopes par jour, les gars. Enfin,
c'est
bref.
Ça. Okay. Aujourd'hui, elle a un peu évolué sur le sujet,
tant
on en a
mieux.
Déjà parlé.
Tant
mais genre, là, si demain je lui dis, oh, bah, j'ai fumé un joint, elle dira rien.
Il vaut mieux fumer un joint, enfin pardon, j'incite personne, hein, mais il vaut mieux fumer un joint de temps en temps récréatif que se taper un paquet de clopes par jour.
C'est ça.
On est bien d'accord.
Oui. Bref. Mais donc sur le sujet.
Donc tu picoles un peu.
Et en fait, là, moi, j'étais. En fait, et c'était la première fois que j'étais sous la
vitre. Tu te mettais une vraie mine, quoi.
Ouais. Et en fait, là, pendant tout le technique. C'était un technival.
Ouais.
Du coup, pendant tout le technival, en fait, on s'embrasse devant tout le monde. En fait, on est à deux.
Vous êtes
point.
Là.
On est que à deux.
Ah, c'est beau.
C'était beau. Mm. Et à un moment, on s'endort par terre.
Ah oui, vous êtes vraiment.
Ah ouais.
Vraiment.
Et là,
sous.
On se réveille. Et il m'a insulté de tous les noms. Il m'a fait des doigts d'honneur et il était odieux.
Mais parce que c'est.
Peu, je sais pas. On n'en a jamais parlé.
Et donc là, t'as dit que c'était fini. Là, tu t'es dit c'est plus possible.
Absolument pas, je l'ai suivi.
D'accord.
Et là, en fait, il y avait un truc, sur sa voiture, n'importe quelle clé pouvait ouvrir sa porte. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé au premier venu, passe-moi une clé. J'ai ouvert sa voiture parce qu'il s'était enfermé dedans.
D'accord, donc t'es allé dans la voiture.
Il est sorti, il m'a frappé.
Oh ok, et donc là, vous continuez la relation.
Et là, j'ai dit à un de mes potes, on rentre. Mon pote, il a pris sa voiture, on est parti. Et moi, je voulais continuer cette relation. Et en fait, j'ai su qu'il avait couché avec une meuf au camping.
Et là?
Ça m'a détruit. Et j'ai continué à dire, non, mais nous deux, c'est bien. Hein.
Ouais.
Et ensuite, c'est lui qui a vu en fait la pitié que j'avais à continuer cette relation, qui a dit, enfin, une semaine ou deux après, non, mais Nicolas, là, tu fais pitié, tu fais que pleurer, tu crois que tu vas aller de l'avant comme ça, on arrête.
C'est horrible, mais c'est bien qu'il a arrêté.
Nécessaire.
Ouais,
mais c'était.
C'est terrible pour toi c'est d'avoir ça. Vécu ça, mais je pense qu'effectivement, c'était. Trop douloureux, trop de violence dans tous les sens.
Oui.
Donc vous arrêtez cette relation.
On arrête. Et là,
toi, t'as quel âge à peu près là?
J'ai 18 ans. Ouais. Et donc là, on se bloque de tous les réseaux, on se voit plus. Et en fait, avec cette relation, aujourd'hui, je l'ai pas oublié.
Ce que j'allais te demander, aujourd'hui, tu l'as pas oublié?
Non.
Tu lui as pardonné?
Je sais pas.
Ok.
Je crois pas.
Okay.
Si, je sais. Oh, j'en ai aucune idée.
T'aimerais un jour essayer de.
Ouais.
Ouais. C'est important, je pense, hein, pour finir l'histoire.
Je pense.
C'est bien de finir les histoires.
Je pense, ouais.
Même si c'est douloureux, il faut finir parce qu'après, ça reste. Tu vois, puis dès que tu iras dans un festival, tu le cherches. Enfin, tu vois, il y a un truc, il faut fermer l'histoire.
Mm-hmm.
Donc là, bon, c'est terminé cette histoire.
C'est terminé.
Qu'est-ce qui se passe après dans ta vie?
Ensuite, il y a eu des plans. Mais moi, je n'ai jamais été amoureux de quelqu'un d'autre à part lui à ce moment-là.
T'as besoin de cicatriser.
Oui, et du coup, moi, en fait, je vois des mecs.
Sur
des applis.
Badou.
Non, là, c'était Grindr et Tinder. Et Hornet.
Hornet. On n'en parle pas assez de Hornet.
Bon, oui.
Ok.
Et donc, là, on se voit et on voit des gars, on couche ensemble, mais je pense à lui tous les jours pendant des années.
Ah, oh, wow, quand même.
Je pense, donc il n'y a rien eu. Donc, j'ai fait mes 5 ans d'études. Pendant mes études, j'ai jamais eu de relation amoureuse.
Sentimentale.
Mais sexuelle, j'en ai eu. Donc là, c'est là où je commence à un peu me trouver.
C'est ce que j'allais te demander, comment du coup tu anticipes ces relations intimes avec les garçons?
Alors,
donc tu te présentes comme passif?
Ouais.
Direct?
Ouais.
Et t'es dans un truc de consommation?
Totalement.
À la Grindr?
C'est ça. Et j'ai eu une petite période, j'ai fait un stage sur Paris, et là j'ai eu une autre relation, entre guillemets, dite amoureuse, que en fait je n'ai pas demandé. C'est lui
sentimental.
En fait c'est lui qui m'a dit on est un couple, j'ai dit ah ok. Et j'ai dit ok, bah si
t'as l'air pas hyper ok.
Ah bah en fait pour moi on se voyait et c'était cool, mais lui on était en couple.
Un garçon gentil?
Oui, mais instable. Mais c'est devenu un peu mon sensei, dans le milieu. Pour avoir des relations sexuelles, parce qu'en fait, c'est lui, était plus vieux que moi. On avait 4 ans de différence. Un peu qui m'a initié aussi à. Non, mais il faut mettre du lubrifiant, en fait. Ah mais il faut faire ci,
c'est
faut faire ça.
C'est tellement plus pratique.
Ouais, et en fait.
Ah oui, d'accord. Il t'a accompagné dans ta sexualité homosexuelle.
Ouais.
Avec un peu plus de savoir.
C'est ça. Et donc là, c'était cool.
Ah, c'est pas mal d'avoir eu quelqu'un comme ça.
Ouais, ouais. Et j'en ai eu plusieurs. Et ces mecs-là, je les remercie. J'ai commencé à travailler. Là, j'en ai eu un autre, pareil, adorable, qui m'a accompagné sur la prise à la PrEP. Donc moi, je prends la PrEP. Et c'est lui qui m'a accompagné sur « il faut que tu la prennes » parce qu'en fait, je lui témoignais ma peur
d'avoir le sida.
Du VIH, des MST, etc.
Alors, ça préserve pas de tout la PrEP.
Totalement.
D'ailleurs, pour les auditeurs et auditrices, il y a le Discord On The Verge qui existe, des super participants qui partagent justement tout ça, et notamment, on parlait de la PrEP justement encore ce matin ou hier matin, suite à l'épisode avec Théo, qui parlait de ça justement, qui comme toi prend la PrEP, etc. Et donc voilà, donc les gens parlent beaucoup de ça, et je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir des témoignages. Donc toi, tu prends la PrEP parce que peur du VIH ?
Ouais, totalement.
Il faut pas oublier que voilà, ça protège pas des MST, des IST, c'est hyper important de garder quand même un condom.
Tout à fait, la fidèle capote.
La fidèle capote. Avec combien de garçons t'as couché ?
Oh là là.
T'as ouvert tes yeux derrière tes lunettes.
Honnêtement, je sais pas. Hein. Une centaine, c'est sûr. Je veux dire une centaine.
Ok, on est coquet, on dit une centaine.
Ouais.
Ok.
Et donc, après, je me suis aussi initié au plan à plusieurs.
Ok.
Quand j'étais...
Sur Grindr toujours.
Sur Grindr, il y a eu un couple, j'y suis allé, j'étais pas à l'aise. Et ensuite, je suis allé dans la salle de bain, je me suis mis en caleçon et voilà. Et après...
Mais qui est à l'aise la première fois ? Ma question.
Et donc, et trop cool, en fait, et pareil, parce qu'ils étaient pas à me forcer, à me dire non, mais let's go, en fait, on y va. Ils ont pris leur temps et même à la fin, ils m'ont dit, on pensait qu'on allait rien faire et ça aurait été ok. Et au final, et c'était trop bien.
Donc, t'as fait quand même pas mal de rencontres, enfin, de ce que tu dis, plutôt... sympa, légère, ouais. Agréable, ouais. Ça c'est cool.
Genre il y a eu lui, il y a eu eux, ensuite il y a eu un des gars qui m'a du coup initié à la PrEP, et ensuite j'en ai vu pareil un autre couple, et le fidèle Mikado. Alors je crois qu'on en a jamais parlé.
Mais qu'est-ce
ici.
Que
en fait, c'est des potes hétéros qui ont appelé ça comme ça, c'est quand tu sodomises quelqu'un et qu'il reste des excréments.
Bien sûr.
Et quand il n'y a pas eu par exemple de lavement ou autre de fait. Et eux appelaient ça le Mikado.
Parce que du coup, on a l'image.
Voilà. Sauf que ce n'est pas un problème. N'est pas grave.
Avec ce couple-là, il n'y avait pas de souci.
Et ce couple, ils ont dit non, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas un sujet. Juste, voilà.
Ok, ça fait partie de.
Voilà. C'est des choses qui peuvent arriver. Et mes potes hétéros, eux, forcément, c'est à cause de la meuf. La meuf n'a pas fait ce qu'il fallait, etc. Elle n'a pas préparé.
Bah oui.
Et donc, moi, je suis tombé sur plein de mecs qui étaient en mode non, mais. Ce n'est pas grave.
Ouais, ça fait partie du...
Voilà.
Ok. C'est bien, c'est vrai qu'on n'avait pas parlé de Mikado jusqu'à maintenant. Le lavement, c'est pas... Pareil, c'est pas...
C'est pas à faire.
Forcément.
Non, moi je le fais de temps en temps. Quand je me dis, il faut que je le fasse, je le fais. Sinon, je le fais.
C'est toi avec ton corps, tu sais, tu sens, quoi.
C'est ça. Mais sinon, je suis sorti avec un gars pendant quelques mois récemment et je le faisais... Je ne l'ai jamais fait avec lui, par exemple. Ça arrivait en étant en mode « Ah,
oui, bon, voilà.
C'est tout. »
Oui, après, tous les rapports, tous les coïds, quels qu'ils soient, ont leurs petits désagréments. Voilà. Mais c'est bien, effectivement, d'alléger cette pression.
Oui.
Ok, donc tu poursuis effectivement une éducation à un éveil sexuel divers et varié, d'une centaine de partenaires. Donc,
une petite centaine.
Qu'est-ce que tu retiens de tout ça ?
Que ça ne rend pas heureux. en gros, fin de la consommation. En fait, c'est clairement de la consommation. Le soir, je suis chez moi, je sais pas quoi faire. Je vais sur Grindr, cherche un plan. Ça m'occupe une heure. Il s'en va. Je retourne lire. Je dors. Point.
Ok.
Est-ce que ça me rend heureux ? Absolument pas.
Il y a jamais un de ces garçons qui t'a donné envie d'aller un petit peu plus loin dans les échanges ?
Si, en couple ou hétéro. À chaque fois, ils étaient en couple ou hétéro. Ça a jamais
été. Les garçons que tu rencontres sur Grindr, ils sont soit en couple, homo, soit hétéro.
Ouais.
Ok.
Ouais. Par exemple, là, je suis à la capitale, à Paris.
C'est vrai.
Et la seule personne avec qui j'ai réussi à discuter est un homme hétéro qui cherche juste un mec comme ça, vite fait.
Hétéro curieux, quoi.
Ouais.
Et ces mecs-là, ils te disent quoi ? Ils te disent qu'ils peuvent. Ils n'assument pas d'être. Bisexuel, vous rentrez même pas dans ces considérations-là.
Je vais pas leur demander, c'est pas mon problème,
d'accord.
C'est le leur.
Ok.
Si on en parle, soit ils sont hétéros et juste ils aiment bien coucher avec des mecs de temps en temps, mais ils sont hétéros.
Incroyable. Ok.
Mais bien évidemment, ils trompent leur meuf. Enfin, moi, ceux que j'ai pu voir, par exemple, il y en a eu un, c'était dans la cave de son appart. Et donc, sa copine était à l'appartement et lui, il est parti le temps d'un quart d'heure. Et puis.
Promener le chien.
Ouais.
C'est un peu glauque.
Oui.
Toi, ça te va, ces rapports-là ?
Consommation.
Ouais.
Ça ne me rend pas heureux. Mais okay. Je le fais parce que, sur le coup, let's go, quoi.
C'est cool, c'est un peu excitant, mais ça te remplit pas. Jeu de mots, bien sûr.
Jeu de mots.
Bien sûr.
Ça ne me rend pas heureux.
Ça te rend pas heureux. Aujourd'hui, du coup, t'en es où ?
Aujourd'hui, j'en suis que j'étais avec quelqu'un.
Quelques mois, tu disais ?
Quelques mois, et ça s'est mal fini aussi parce que violence psychologique.
Conjugale.
Comment ?
Conjugale.
Ouais. Là, donc, il n'y a rien eu de physique, il n'y a pas eu de violence physique. En fait, comparaison permanente, etc. Et en fait, le sujet de dispute, c'était que lui voulait une relation libre. Et moi, j'en veux pas.
Toi, tu veux pas.
J'en veux pas. Et donc, on est resté un mois sur cette question-là. Pourtant, le sexe entre nous deux était incroyable. Il le disait, je le disais,
c'est
on était très contents.
C'est pas avec du sexe, enfin, de relation libre. Hein,
ouais. Mais pour moi, ça me suffisait. Enfin, je ressentais pas le besoin de voir quelqu'un d'autre. Mais lui, si. Et ça a créé des grosses tensions, on s'est disputé. Et ensuite, il a décidé de faire une pause. Et donc, j'ai dit, ok, on est en pause. Donc, ça veut dire on retourne sur Grindr et on fait ce qu'on veut. Oui. Ok.
Surtout pour un gars qui veut une relation libre.
C'est ça. Le soir même, je lui envoie un message à un régulier d'avant. On a été dans un garage, on a couché ensemble.
CAF, garage, on est vraiment sur ton créneau.
Dans mon petit périmètre. et donc j'ai recouché avec un régulier. Le lendemain, j'ai eu un date dans un parc. Et après, je suis allé chez le mec, on a couché ensemble.
Oui, tu t'es pas laissé abattre, quoi.
Ah, j'ai la colère m'a dit, fais ce qu'il attend de toi. Couche avec des gars. Sauf que moi, après, je faisais aussi des dates. Donc, j'allais boire des verres avec des mecs.
Tu comprends que c'est quand même un peu tendancieux.
Oui. Et donc, lui m'a reproché de faire des dates et de coucher avec des mecs.
Et tu le comprends ?
Je l'entends. non, je lui disais, mais c'est ça que tu nous as dit, on est en pause. Donc, tu nous as autorisé à aller voir des mecs, à aller boire des coups et tout. Donc...
Lui l'a fait ?
Il m'a dit qu'il ne l'a jamais fait. Il était sur Grindr et Tinder avant que cette pause soit annoncée.
Ah,
donc, ouais. Je refuse d'y croire. Ouais. Mais la vérité vraie, je ne la connais pas.
Ouais, puisque... Après, effectivement, la pause, tu te dis, d'un couple comme ça, c'est aussi de réfléchir et de prendre un temps pour soi. Bon, il a été vexé, quoi.
Totalement.
Ouais.
Et surtout que... Et ce qu'il m'a dit, c'est « Je ne te le reproche pas, mais... » le fait que tu sois contre depuis tout ce temps et que du jour au lendemain je te dis on fait une pause et que tu vois X, Y, Z et W bah pas ouf, mais je te le reproche pas, c'est un reproche.
Ouais, mais ça s'entend, enfin je prends qu'un parti, mais ah ouais, ça s'entend mais
enfin d'après moi il peut pas me le reprocher parce que c'est lui aussi qui l'a voulu. Donc,
vous avez peut-être pas assez parlé des conditions du break.
C'est ça.
Peut-être qu'il aurait fallu se dire, bon alors, le break, c'est quoi ?
En fait, on était tellement dans la dispute.
Ouais, c'était sa colère qui t'a fait parler, ouais. C'est ce que tu disais.
Ah oui, totalement. Et donc, voilà.
Et là, c'est terminé.
Et ouais, ça s'est fini. Et donc, lui aussi m'a reproché ses non-dits et le fait que dans ma famille, je n'étais pas out. Et en fait, il n'était pas dans la compréhension, mais était en mode, en fait, excuse-moi du terme, en fait, juste porte tes couilles. Et j'étais en mode, en fait, tu ne peux pas savoir que... donc, dans ma fratrie, j'ai un de mes frères qui me terrifie. J'ai mon père qui dit PD tout le temps. Frère
mais tu lui as pas dit ?
Si.
Ah, tu lui as dit ?
Ah si, mais il ne l'entendait pas.
Ah oui, là, effectivement, c'est un manque de compréhension de sa part.
Et je lui ai dit, après, j'ai un de mes autres frères qui m'a clairement dit, si un jour tu me dis que t'es gay, sache qu'on ne se parlera plus jamais. Oui. Voilà, donc...
Ouais, non. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire.
Oui.
Non, sauf... mais je connais des hommes homosexuels qui ont décidé de ne pas le dire.
Ouais.
Pour toutes ces raisons.
Voilà.
Parce qu'en fait, la balance bénéfice, en fait, ne va pas en leur faveur.
Ouais.
Donc, tu vois, et comme on le disait, on ne doit rien à ses parents et tu ne te lèves pas un matin et tu ne dis pas à tes parents, au fait, je suis hétéro. En fait, moi, mon truc, c'est les meufs, les mecs, peu importe. Est-ce que tu es obligé de dire à tes parents la même chose si tu es homo ? Non, ton homosexualité, c'est ta vie intime. Ton intimité.
Mm-mm.
Par contre, c'est important que toi, Nicolas, tu saches si ça te ferait du bien de leur dire. C'est là où effectivement, il est important de mettre la jauge, parce qu'effectivement, dans une famille comme la tienne, où on ne dit absolument rien et beaucoup de choses passent par la violence, les non-dits, l'emprise, la brutalité, peut-être qu'effectivement, faut voir toi où tu te places par rapport à ça.
C'est ça, ouais. Donc moi, je sais qu'aujourd'hui, je ressens le besoin de le dire, mais je n'y arrive pas.
Et oui, donc, pardon de faire cette vieille madame, mais tu n'as que 27 ans.
Bah pour certaines personnes, j'ai déjà 27 ans. Enfin, dans le sens où, aujourd'hui, en fait...
Bah écoute, on the verge, les gens. Il y a des gens, ils se sont outés à 40 ans, hein, 45 ans. Donc, à un moment donné, tu vois, il faut ça. Laisser son temps aussi à chacun.
Ouais. Et donc, voilà. Moi, je sais qu'aujourd'hui, c'est ça...
Ton objectif.
Ouais. Et c'est pour ça que j'étais voir une psy. Moi, ouais. Psy, objectif, réussir à dire que je suis homosexuel auprès de ma famille.
Tu es d'accord avec moi. Je ne veux absolument pas te brusquer, mais qu'il n'y a pas que ça à gérer comme problème.
Ah oui, totalement, totalement.
Et on a un rewind sur, tu vois, tout le terreau familial, la violence, c'est ce que tu disais, les comportements dans lesquels tu te mets et les recherches que tu as avec des partenaires sur lesquels il faut bosser aussi.
C'est ça.
C'est un peu, aujourd'hui, c'est quoi justement? Tu te projettes dans quel type de sexualité et tu as envie de quoi?
Aujourd'hui, j'ai envie d'être amoureux de quelqu'un qui est amoureux de moi.
Enfin, c'est beau.
Voilà. Enfin, je pense que ça, je l'ai jamais réellement. En fait, j'ai jamais reconnu la relation simple où tout
est beau.
C'est
une petite annonce que tu fais là.
Nicolas, 27 ans.
Si vous aimez Harry Potter version métal, franchement, go les gars. Les cheveux bouclés.
C'est ça.
C'est ça. C'est Harry Potter.
C'est ça.
Tu vas un amour.
C'est ce que j'aimerais.
Ouais.
Mais aujourd'hui, je sais que j'y arriverai pas. Et donc aujourd'hui, ce que je fais, je dis clairement, par exemple sur Grindr, aujourd'hui je cherche des gars réguliers, mais avec qui je peux être pote, avec qui je peux boire des verres, et en fait juste des relations simples. Sauf que souvent en fait, on n'est pas dans ce genre de relation. Et enfin moi aujourd'hui, ce que les gars ils attendent quelque chose. Enfin j'ai l'impression qu'ils attendent quelque chose de moi, qu'on aille plus loin dans une relation. Sauf que aujourd'hui moi clairement, et ce que je dis à des gars en fait, premier date, je leur dis aujourd'hui je ne suis pas prêt.
Mais c'est bien de le dire.
Et donc, voilà.
Tant que toi, t'es honnête avec toi-même, après, la personne, elle peut ne pas vouloir... et ne pas l'accepter. Mais tant que toi, tu dis les choses, que tu ne manipules pas la personne, tu ne lui fais pas croire ou espérer quelque chose, toi, t'es clean avec toi. Donc, tu n'as rien à, entre guillemets, faut pas que tu en souffres. Après, effectivement, c'est super honnête, je trouve, et courageux. Tu as commencé l'interview en disant « je ne suis pas courageux ». Tu es extrêmement courageux de porter... tout ça aujourd'hui et d'être, semble-t-il, équilibré avec ton job, ta vie, tu sais où tu vas, tu connais tes limites et surtout tu es dans cette recherche, tu as un objectif qui est effectivement t'outer et essayer avec tout la base douloureuse que tu as, tes agressions, des parents qui ont été mal aimants, je ne dis pas aimants, mal aimants, parce qu'effectivement... beaucoup de violence, voilà, des yeux fermés, etc. Ils ont fait ce qu'ils ont sûrement pu, mais en tout cas, ils ne l'ont pas fait de la bonne manière. Bah, arriver, tu vois, à porter ce discours, à vouloir trouver ta place et encore croire en l'amour, je trouve ça tellement courageux. Donc vraiment, bravo pour ça. Et tu es vraiment dans ce chemin-là. Et je pense que vraiment, en parler là, à ce micro, etc., c'est aussi... Tu vois, tu as posé un truc, quoi. Donc c'est là.
Ouais.
Maintenant... step d'après, quoi.
C'est ça.
Donc aujourd'hui, c'est ça ton souhait?
Ouais.
Sexuellement, t'as fait pas mal de choses déjà? Est-ce qu'il y a encore des pratiques, des fantasmes, des choses que t'as envie d'explorer?
Ouais.
Ah oui.
J'ai le fantasme que normalement, je devrais réaliser bientôt.
Ah, c'est sur ton agenda.
ouais, mais on essaie de se caler un rendez-vous, on n'y arrive pas. C'est le plan à trois, homme-homme-femme.
Homme-homme-femme, d'accord.
Avec un couple hétéro.
D'accord.
Avec l'homme bisexuel.
Donc du coup, tu vas aussi relationner avec la jeune femme?
C'est ça. Moi, je vais pas être là comme homosexuel, mais plutôt comme bisexuel.
Et ça, t'es content de l'y aller?
Ouais, okay. J'ai très hâte. Okay. Ça, et donc là, on se parle donc sur Wide, Wide, okay. Une application de, enfin un site internet de libertinage.
Ok.
Et donc là, on discute depuis un petit moment et on sait sexuellement, c'est ça que j'aimerais faire. Ensuite, sur Grindr, je continue à voir des gens. Et donc moi, ce que j'aime plutôt bien, c'est être. Et ça, la dernière fois, je l'ai dit, ça a un peu choqué cette personne, être la pièce rapportée d'un couple.
Ah oui, mais je l'ai entendu déjà, ça, quelqu'un qui rentre dans l'intimité des ouais. autres le temps d'une soirée.
J'aime beaucoup.
Ouais, mais je l'ai déjà entendu, je comprends que ça puisse choquer, mais effectivement, je connais des hommes ouais. qui aiment bien avoir ce sentiment de, voilà, le temps de quelques heures de rentrer dans l'intimité.
Dans ce couple, ouais, c'est ça, et ça, moi j'aime beaucoup cette sensation-là.
C'est quelque chose que tu pourrais faire, toi, quand t'auras ton amoureux?
Non.
Même pas, j'ai fini la phrase, non, c'est mort.
Non, bah, après, et en fait, j'en parlais avec bah, du coup mon ex, et selon lui, c'est parce que bah, j'ai pas assez confiance en moi, etc. Et en fait, aujourd'hui, je me sens pas assez bien moi-même, peut-être pour ouvrir ce champ des possibles.
Je ne sais pas.
Après, demain, je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être oui. que demain, tous les soirs, on sera avec, je serai en couple avec le père de mes enfants et on va voir d'autres gars, d'autres femmes. Je ne sais pas.
En vrai, ouais, c'est vrai qu'on a personne à de boule de cristal et puis le chemin vers le bien-être avec soi est tellement long que ça définit aussi la sexualité. Enfin, en tout cas, le tempo de sa sexualité. Donc, c'est vrai qu'on peut pas savoir. Ouais, c'est difficile.
J'ai une idée. Mais là,
t'as envie d'avoir des enfants ?
Pas du tout. Je crois pas. Je sais pas. Je sais pas ce qui est fait demain.
Comme tu dis, le père de mes enfants. Okay.
Oui, c'est ma petite expression.
D'accord. Pour dire que c'est Ziwan, quoi.
C'est ça.
Ok,
c'est
je
ça.
Comprends. Est-ce qu'on a parlé de tout ce que tu voulais ?
Alors, il y a peut-être un seul truc.
Vas-y. Alors, t'avais pris des notes.
J'ai pris des notes.
Nos problèmes.
Je n'arrivais. Je vais juste dire un truc par rapport à Grindr.
Ouais.
C'est comment les hommes peuvent être horribles sur ce site d'achat et de consommation. En gros, parfois je reçois des messages pas ouf. En gros, où les mecs veulent juste coucher avec des gars avec des origines. En fait, donc moi, j'ai mon grand-père qui vient d'Afrique, mais je suis plutôt blanc de peau.
Oui. Clair.
Et donc j'ai quand même des gars qui me disent, en fait, qui m'envoient pas de bonjour, comment ça va, enfin des banalités. Ils me disent juste origine.
Ah, ils voient ta photo
ouais.
et ils veulent être sûrs
ouais.
que tu viens, là pour le coup,
c'est ça.
D'Afrique
ouais.
ou du Maghreb, ou peu importe.
Ouais, c'est ça.
Ah oui, le fétichisme quoi.
Ouais, et ouais. donc j'ai ça, ou j'ai des gars ouais, qui veulent juste savoir de quelle origine je suis pour avoir un rapport sexuel.
Moi j'étais très choquée sur Grindr, on m'a expliqué qu'il y avait des... dans certaines bios, des gars qui mettaient justement « no Asian »,
«
no Arabe ». Enfin,
ouais.
ça va pas bien les gens.
C'est ça. Et donc, limite, on pourrait voir plutôt le problème à l'inverse, c'est plutôt dire « bah moi, je suis plutôt rebeu » et pas dire « je ne veux pas », et plutôt dire « je suis plus orienté vers ça ».
Ouais, enfin, après, c'est une forme de fétichisme aussi, mais je suis d'accord ouais. avec toi. Est-ce qu'il vaut mieux être désiré ou rejeté, je ne sais pas. Enfin, bon, bref, c'est un autre débat, ouais. mais je comprends que ce soit perturbant.
Ouais, donc là, moi, sur Grindr, j'ai plein de screenshots que je prends des discussions drôles ou horribles. C'est-à-dire...
Tu les fais remonter au SAV ?
Non, j'ai ouais. rarement remonté. Les seules fois où je remonte, c'est quand on me vend de la drogue via Grindr.
Ah ouais, oui, parce que c'est ça aussi, il y a vachement de chemsex ouais, sur Grindr.
Ça,
hein.
C'est
terrible. Hein.
Je suis déjà allé à une soirée que là, je tombe sur deux gars et je suis en mode ah, mignon, ils habitent pas loin de chez moi, let's go, j'y vais. Et en fait, c'était totalement défoncé. Et donc là, je commence à me déshabiller. Ok, et en fait, ça se voyait qu'ils étaient pas là.
Pas dans leur état normal.
Ouais, et en fait, juste le mec. Il est venu sur moi et il a commencé à prendre mon pénis pour le mettre en lui. Résultat des courses, grosse MST.
Tu t'es pas protégé ?
Bah, j'ai pas eu le temps. En fait, j'étais vraiment assis. Il est venu, bam, trois allers-retours. Et moi, je suis en mode, en fait, je dois partir.
Ah ouais.
MST, bam.
Tu l'as écouté l'épisode avec Réhouven ? Qui parle justement du chemsex. C'est un garçon oui. qui a... Mais c'était terrible, hein. C'est l'épisode 56. Et lui parle effectivement de toute son expérience et d'avoir réussi à s'en sortir du chemsex. Et quand l'épisode a été diffusé, j'ai eu énormément de gens qui m'ont dit à quel point c'était, dans la communauté gay, c'était un fléau, que les pouvoirs publics n'en parlaient pas, que c'était inadmissible. Et que ça détruisait des vies, des hommes et tout, et qu'il y a une recrudescence de la syphilis. Je pense aussi à Pierre, qui a témoigné au tout début, dans la toute première saison, je crois que c'est l'épisode 4 de mémoire. Pierre qui est aussi qui est très investi dans AIDS et qui, justement, bosse beaucoup à la com de AIDS, Paris, et qui m'expliquait aussi ça, justement, que c'est fou comme quoi le chemsex pardon, est en train de détruire la communauté gay.
Oui, c'est horrible. Bah ouais, et justement, donc moi, là, je suis reparti direct et j'étais vraiment en mode, mais... Enfin, ces pauvres mecs, ils ont... Franchement, ils ont 19 ans et ils sont juste...
Déjà...
C'est tout, en fait. Après, là, moi, j'ai rencontré quelqu'un qui était en mode, ouais, le groupe de 8 mecs, là, qui font tout le temps des tous et en fait, ils sont juste défoncés et ils cherchent juste à voir le nouveau mec du coin pour... Enfin, mais en fait, ils, ils couchent même pas ensemble.
Oui, mais non, mais
ils se défoncent.
Ouais, ouais, ouais.
Et là, un ami d'un ami est sorti aussi de ça. En fait, c'était au point où il devenait parano, il avait l'impression d'être suivi.
Ah, oui,
dès qu'il couchait,
détruit.
C'était de la drogue. Ah, ouais. Et moi, la première question que j'ai posée, c'était, mais est-ce qu'il va réussir à avoir des relations sexuelles sans prendre de drogue? Est-ce que pour lui, ça va pas devenir un automatisme?
Bah, c'est compliqué. Enfin, ce que disait Réouven, c'est que c'est très compliqué. C'est un réapprentissage complet. Parce que...
Donc, okay, oui, ouais. Sur Grindr, il y en a beaucoup trop. Et, attention, enfin, vraiment.
Très attention.
Non.
Comment, Nicolas, tu conclurais cet épisode et ce moment que nous avons partagé ensemble?
De faire attention à soi, de pas répondre aux besoins de quelqu'un si on n'en a pas envie. De dire qu'on si on est sa priorité, personne viendra se voir en disant tu es devenu ma priorité. Non, si on se fait pas, si on cherche pas à être heureux, on le saura pas. Et faut penser à soi d'abord. Parfois, malheureusement.
Non, non, c'est une belle, belle conclusion. Pensez à vous d'abord. Merci Nicolas.
Avec plaisir.
Merci pour votre écoute. Merci peut-être pour vos larmes aussi. J'imagine que. On ne peut pas sortir de cet épisode indemne. N'hésitez pas, si vous avez envie d'en discuter, de nous rejoindre sur les réseaux sociaux du podcast, mais aussi sur le Discord. Le lien est dans les notes. Et sachez que Nicolas est sur le Discord. Donc, si vous avez envie d'interagir avec lui, n'hésitez pas. Merci pour votre écoute. Merci pour votre soutien. J'en profite pour vous demander toujours et encore, hein, si vous voulez soutenir le podcast, hein, de mettre des étoiles et des avis sur Apple Podcast. Ça lui permet de grandir et de se développer encore et encore. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de On the Verge.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.